Déambulation.
Le 19 mars, nous nous étions rendus aux portes ouvertes de La Source, une maison de santé naturelle située au 10 bis rue Anglaise à Die. Bonne écoute.
C'est lui qui choisit son prix. Et il vous apporte sur le prix. Finalement, c'est un regroupement.
Bonjour. Oui, et toi? Ça va? Tu fais quoi ici? Tu es praticienne aussi?
Non, pas ici.
D'accord.
Je suis praticienne de là, ici. Non, j'aime mon bébé chez Emma.
Ah, ostéopathie. Et je peux te poser des questions, c'est pour la radio. En fait, je viens faire un reportage un peu sur la maison, La Source.
Ouais.
Et donc, comment connais-tu ce lieu?
Par Emma, que j'ai rencontrée, qu'on m'a conseillée en fait comme ostéopathe, en tant qu'ostéopathe.
Comment vois-tu ce lieu où il y a un panorama de thérapie naturelle?
Ce que je trouve le plus intéressant dans ce lieu-ci, qui va, je pense, se mettre en place, c'est l'échange qu'il peut y avoir entre les différents praticiens, les différentes techniques. Voilà, s'ils arrivent à se réunir régulièrement et échanger leur vision, échanger sur certaines personnes, voilà, comment ils évoluent chacun personnellement, les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà, ça, je trouve vraiment très riche.
Et ça répond à un certain désir de se soigner? Pour toi?
Ah, pour moi, oui. Oui. Moi, je fonctionne. Je trouve que c'est. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup avec ce type de médecine-là. Moi, je réponds personnellement très bien à ça, à l'ostéopathie. J'ai pas essayé toutes les autres techniques qui sont proposées ici, mais c'est vrai que c'est. Chacun peut trouver un peu son quelque chose qui lui correspond. Je pense que c'est pas mal.
Est-ce que tu penses que c'est un lieu où on prévient ou on procède à proprement parler à soigner?
Je pense que ça peut être les deux.
Préventif ou curatif, c'est ça que je voulais savoir.
Je pense que ça peut être les deux. Je crois que c'est un des intérêts ici, c'est que ça peut être du préventif. Moi, la manière dont je vais voir les ostéopathes, j'essaye que ça reste du préventif. C'est-à-dire, j'y vais une fois par trimestre et ça me permet de rester en bonne santé toute l'année. Voilà. Après, ils sont sûrement aussi très compétents dans du curatif, voilà, quand il y a un blocage, quand ils peuvent traiter ça aussi très bien.
Bonjour. Alors toi, tu es aussi dans cette maison de soins naturels, La Source, et que viens-tu y faire toi-même?
Alors moi, je pratique le shiatsu ici. Je développe peut-être autour de la pratique. Donc le shiatsu, c'est une discipline qui vient du Japon, qui est née au Japon. Ça puise quand même ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise. Au départ, il y avait un massage en Chine qui n'a pas été développé en Chine, mais qui a donné ce début au shiatsu, qui a été repris par des personnes qui pratiquaient l'anma, en fait. C'était plus de la relaxation bien-être et c'était pratiqué par les non-voyants. Et ensuite, ce massage chinois a été repris, c'était un système de pression, a été repris dans l'anma, et c'est devenu le shiatsu qu'on connaît aujourd'hui, le shiatsu moderne, qui est né au début du XXe siècle. Donc c'est la technique elle-même, c'est un système d'appui prolongé, plus ou moins prolongé sur le corps le long des méridiens, donc les méridiens où se trouvent les points d'acupuncture. Et l'objectif, c'est de sentir s'il y a des blocages énergétiques, de remettre ça en circulation en libérant les blocages par ce système de pression.
Comment ça se passe donc ici?
Pendant une séance, donc une personne arrive, il y a d'abord un questionnaire. Moi, je lui pose un certain nombre de questions pour essayer de cerner un petit peu sa typologie, voir s'il y a des troubles chroniques ou pas. En fonction de ça, ça me donne un petit peu des indications sur l'énergie des organes qui peuvent être un petit touchés. Et puis ensuite, donc je demande à cette personne de s'allonger au sol. Ça se pratique au sol, hein, sur un futon. La personne reste habillée dans une tenue un peu souple et confortable. Elle est allongée au sol. Ça, c'est le type de shiatsu que je pratique. Tout le monde ne commence pas comme ça. Mais je commence par toucher sur son ventre. C'est là où se trouvent tous les organes vitaux ou à proximité. Donc c'est là où on peut sentir vraiment faire une évaluation un peu fine énergétique. Et donc en fonction de ce que la personne m'a dit, ce que je sais d'elle, de ce qu'elle a bien voulu me dire, et en fonction de ce que je sens sur son ventre, ça peut se sentir sur le dos aussi, je vais déterminer un travail spécifique par rapport, donc c'est personnalisé à chaque fois, par rapport à cette personne, je vais travailler tel ou tel méridien pour essayer de remettre tout ça dans une circulation fluide.
Sarah, que fais-tu ici donc dans cette maison ?
Moi, j'enseigne le Qigong à la base. Donc, ça veut dire le travail ou maîtrise du souffle vital. Et effectivement, le Qi va circuler à travers tous les méridiens. Et il est relié à l'extérieur aussi, mais donc on va dire qu'il va traverser dans le corps, il va traverser tous les méridiens. Donc moi je m'attache particulièrement à travailler en séance individuelle le placement du corps, parce qu'il peut y avoir des placements du corps avec par exemple des épaules rentrées ou alors quand on est très combré, qui vont faire qu'au niveau de la structure corporelle, il y a des points qui vont être bloqués, des circuits énergétiques dont vient de parler Nadège d'ailleurs, qui vont être bloqués simplement parce que structurellement, on est trop combré, ou alors on a la tête en bas, la tête en haut, ou les épaules, ou le plexus enfoncé, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça va être, je vais parler avec la personne, je vais observer aussi beaucoup la personne, voir comment elle respire, voir comment elle se place, et quels sont ses appuis, et puis tranquillement identifier les endroits où il y a des tensions, et voir, avec mon expertise, de trouver un moyen d'inciter le corps à se positionner dans les axes. Une fois que le corps est positionné dans les axes osseux, il peut y avoir une détente au niveau tissulaire, que ce soit musculaire, tendineux ou ligamentaire. Mais vraiment, dans un premier temps, replacer les lignes de force. C'est un travail qui est très subtil, qui va par petites touches et avec une stimulation de certains points d'acupuncture. Parce que certains points d'acupuncture peuvent être enterrés, si je peux dire, dans les masses musculaires, si le corps est mal positionné.
Le Qigong, ça veut dire quoi exactement ?
C'est chinois, c'est une pratique chinoise qui est millénaire. Ça veut dire le travail du souffle vital, ou la maîtrise du souffle vital. Et en fait, comme je le disais précédemment, le Qi, c'est vraiment l'énergie, un souffle vital qui circule à l'intérieur des méridiens. Imaginez quand vous regardez une personne, que cette personne est parcourue par des rivières. Voilà. Et dans ces rivières, que sont les méridiens, finalement, qui sont des canaux énergétiques, circule le Qi.
Et Marie, vous proposez quoi ? Bonjour.
Moi, je propose la sophrologie.
La sophrologie, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'étymologie du mot sophrologie vient du grec, de sos, l'équilibre, l'harmonie, phrène, de l'esprit, et logos, l'étude, le discours. Donc voilà, ça va être un petit peu ça l'objet. Ça passe par la relaxation. Donc on va passer par le corps au travers d'exercices de relaxation, mais aussi de respiration et aussi les possibilités de l'esprit, par exemple l'imagination, pour amener à harmoniser, on va dire, à la fois l'ensemble de l'être, c'est-à-dire les émotions, le mental et le corps. C'est une pratique qui s'est inspirée de l'Orient, mais aussi des courants d'Occident. Du coup, on y retrouve des aspects du yoga, des aspects du zen et des aspects également de la philosophie bouddhiste, on va dire. Et en même temps, de recherches qui ont été faites sur la conscience, notamment au niveau de l'hypnose, mais pas seulement. Par exemple, la phénoménologie, comprendre la manière dont on rencontre le monde. Ça va donc chercher à amener les personnes à mieux se connaître au travers de d'abord leur corps, une conscience du corps, mais ensuite, lorsque on arrive à mieux se relâcher, on va dire, on va pouvoir sentir comment on répond aux situations du monde et peut-être mieux ajuster nos réactions. C'est un outil qui permet de devenir un peu plus acteur soi-même de changement. Quand on repère par exemple qu'on réagit d'une manière trop stressée ou qu'il y a quelque chose qui nous ennuie, aussi bien par exemple dans l'avenir, c'est-à-dire un événement auquel il faut se préparer ou bien quelque chose qui nous a trop affecté par exemple. Enfin, en tout cas, je vais chercher moi à amener la personne à trouver elle-même des moyens pour se relâcher, pour trouver qu'est-ce qui, dans sa réponse aux événements, peut-être a été difficile ou pas bien ajusté. Et grâce aux ressources de l'esprit, on va dire, au travers par exemple de l'imagination positive, du non-jugement aussi sur l'interprétation qu'on a tous tendance à faire aussi, à laisser beaucoup les processus mentaux venir nous envahir et nous couper du coup de l'instant présent, et bien chercher à, voilà, à être plus dans le présent et mieux gérer, on va dire, les choses qui nous arrivent.
Tu voulais dire quelque chose, Sarah?
Oui, je voulais rajouter, donc, le Qigong, donc, c'est la maîtrise ou le travail donc, du souffle vital, du Qi, qui circule à travers les méridiens. Mais le but ultime, c'est de retrouver une sensation énergétique qui est très très fine et qui est liée à la santé, et qui est de retrouver la mémoire dans le corps du souffle embryonnaire. Et qu'est-ce que ça veut dire de retrouver la mémoire du souffle embryonnaire? C'est-à-dire se reconnecter au premier moment où notre corps de la matière s'est construit. Et là, il y a un potentiel de vitalité et de détente qui est gigantesque. Mais pour qu'on puisse mettre la main dessus, il faut passer dans un premier temps par la structure corporelle. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup et qu'au sein de la source, je parle du placement du corps par le Qigong et pour le Qigong et pour la santé de toute façon.
Cela fait combien de temps que cette maison est ouverte ?
Elle s'est ouverte courant janvier. Voilà, on a trouvé le lieu à la fin de l'année 2013. Et en janvier, on commençait à faire les travaux et emménager ici.
Sarah ?
Au sein de la source, j'ai également une autre activité que j'ai baptisée relaxation par le toucher. En fait, ça recouvre différents types de toucher pour la relaxation, pour la détente, pour la vitalité, et dont la lymphoénergie, dont je souhaitais dire un petit mot, qui n'est pas du drainage lymphatique, mais qui est une technique de relance lymphatique associée à la pression de points d'acupuncture et qui apporte un très très grand soulagement et une très grande détente, et qui peut être utile en cas par exemple de surpoids, en cas de mauvaise circulation veineuse, en cas de grand stress.
Si j'ai bien écouté toutes les personnes que j'ai interrogées, vous êtes là aussi pour pallier une certaine carence pour certaines personnes au niveau d'un contact ou de la parole, c'est ça en somme?
Aujourd'hui, alors je parle pour le shiatsu, hein, par rapport à ma pratique, que les gens aujourd'hui ont quand même besoin d'être touchés. Je pense que ça manque beaucoup dans notre société, on travaille beaucoup avec la tête, peu avec le corps, et ressentir dans son corps, ça devient de plus en plus nécessaire. Donc effectivement, je pense que ça peut venir combler quelque chose à ce niveau-là. Après la parole, j'en sais rien. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse un espace de parole, c'est sûr, avant la séance et après la séance. Après, je fais pas de la psychothérapie, donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une écoute, il y a une attention à la personne, il y a une bienveillance aussi, il y a une écoute bienveillante. Et je pense qu'effectivement, ce sont des pauses qu'on peut s'autoriser, enfin qu'il faut s'autoriser aujourd'hui dans ce qu'on vit tous. Hein. C'est important de retrouver ce moment-là pour soi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait avant de devenir praticienne, c'est ce que j'ai fait pour moi. Et c'est pour ça que je suis praticienne aujourd'hui, je pense, parce que ça m'a été extrêmement bénéfique.
Et en fait, dans l'expression que tout le monde connaît, qui est être bien dans sa peau. Eh bien, ma foi, il y a peau. Il faut s'occuper de sa peau, il faut s'occuper de soi. Surtout dans le monde qui est un peu... qui s'occupe pas forcément beaucoup des gens. Et Marie mentionnait justement la conscience. Donc je pense que ça va aussi s'occuper de soi, ça va aussi avec un processus de conscience, avec une respiration tranquille, ça va avec beaucoup de choses. Donc il faut vraiment passer par le côté physique.
Marie
Finalement, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était que la sophrologie, elle s'inspirait de différents courants, et j'ai parlé de l'hypnose. Et en fait, ce mot, c'est un mot qui fait peur, et je me suis dit que finalement, il fallait que je souligne que en fait, la sophrologie, c'est pas de l'hypnose du tout. C'est vraiment pour une personne pouvoir se remettre au milieu de son existence. D'abord en apprenant à se relâcher, et après, une fois qu'on est relâché, on peut envisager les choses un peu différemment, avec beaucoup plus, j'allais dire, un regard positif. En tout cas, voir à quel moment on a tendance peut-être à se laisser prendre par les habitudes, par les jugements de valeur, les interprétations. Donc, c'est un peu un entraînement qui peut se faire de manière collective, et du coup, c'est intéressant parce que on peut échanger, on peut travailler au niveau de la parole, mais aussi exister au milieu des autres, en étant soi-même, sans porter un jugement, par exemple, et en étant vraiment à l'écoute d'un ressenti profond. C'est vraiment quelque chose qui amène à s'intéresser aux valeurs de l'existence. Donc s'intéresser à nos valeurs et comment on arrive à les servir, à les mettre au milieu de l'existence.
Des valeurs propres à chacun,
exactement,
bien sûr.
Bien sûr, oui, c'est à chacun finalement d'interroger ses propres valeurs et de voir s'il y en a qui sont un peu oubliés ou s'il y en a qui ont changé et que peut-être justement... ou alors des valeurs qu'on ne voit pas et on va au contraire les mettre en avant et les renforcer, les soutenir. Et en général, ça va amener un dynamisme. C'est quelque chose qui soutient l'esprit et une force pour avancer dans l'existence.
C'est un peu le rôle aussi de l'atelier de groupe de parole.
De toute façon, à partir du moment où on est dans le développement personnel, dans le soutien, dans la relation d'aide, il y a toujours des ponts. Et là, effectivement, la parole, une parole authentique, déjà pouvoir se rapprocher un peu de soi dans l'authenticité, oui.
C'est ça, se rapprocher de soi dans l'authenticité et ne pas se comparer. Voir quelles sont ses propres valeurs à soi et se solidifier dedans, mais sans se comparer avec les autres personnes. Pour moi, ça, je trouve ça très important parce que très souvent, on se compare, on dit « Ah, un tel, il fait mieux, l'autre, il fait moins bien. » Ce n'est pas... Non, c'est de développer vraiment l'axe de la confiance en soi. Et pour ça, il y a différentes techniques. Et utiliser ces techniques, que ce soit la parole, la sophrologie, la conscience, le shiatsu, le qigong, la naturopathie, c'est quelque chose qui va concourir, en fait, à se faire du bien et à se remettre dans sa peau. Et c'est notre peau. Notre peau, c'est la nôtre, c'est pas celle des autres.
Nadège, quelque chose à rajouter ?
Peut-être que ce que je peux rajouter pour le shiatsu, parce que c'est vrai que j'ai plutôt décrit la technique, comment ça se déroulait. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est une discipline qui va aider la personne, finalement, à se soigner toute seule. J'entends par là que... Enfin, en Asie, on estime quand il y a un blocage sur un méridien énergétique, si on ne s'en préoccupe pas, ça peut à long terme créer un trouble profond, une pathologie, que ce soit physique ou mentale. Le fait, par ces pressions-là, d'aider à la bonne circulation de l'énergie, ça va éviter évidemment qu'il y ait trop de blocages, donc ça va éviter peut-être qu'il y ait des troubles qui s'installent trop longtemps. Et ça va permettre à ce que chaque système du corps fonctionne de la manière la plus optimale possible. Si ça circule bien, ça fonctionne bien. Du coup, les personnes vont tomber peut-être moins souvent malades ou guérir plus vite. Et surtout, elles vont au fur et à mesure de la pratique, parce que évidemment, c'est quelque chose qui se fait sur un moyen terme, on va dire. Peut-être qu'il faut faire 3-4 séances quand même avant de sentir vraiment ce qui se passe dans son corps. Et à force de sentir, le corps va s'ouvrir. Quand on a une régularité, il va s'ouvrir de plus en plus à ce qui se passe. La personne va apprendre elle-même à ressentir à un moment donné dans son corps où est-ce qu'il y a un blocage, pourquoi elle va peut-être mettre en lien aussi avec ce qu'elle vient de manger ou avec l'émotion qu'elle a vécue, le contexte familial ou professionnel. Ça aide les personnes à mieux se connaître et à sentir tout ça plus vite et à réagir plus vite.
Ce que vous me dites, toutes les trois, ça semblerait indiquer que c'est une discipline de vie à essayer d'apprendre justement pour mieux gérer sa vie. Et est-ce que c'est aussi ouvert pour les jeunes, justement, qui sont en pleine croissance et justement à réussir à gérer? Parce que là, les personnes qui viennent vous voir, c'est une moyenne d'âge de combien à peu près?
Moi, j'ai vraiment, pour l'instant, en fait, l'âge le plus bas, enfin, la personne la plus petite sur laquelle j'ai travaillé, elle avait 7 ans. Et la personne la plus âgée avait une soixantaine d'années. Donc c'est vraiment tous les âges. Et je dirais que c'est quelque chose qui est adapté à tous les âges de la vie. Et chez les jeunes, moi j'adore travailler sur les jeunes. Ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais à chaque fois. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de cristalliser encore et d'avoir des blocages profonds.
Oui.
Donc ça va très vite. Ça va excessivement vite en une séance ou deux par rapport à certains troubles, des troubles digestifs ou de sommeil. Ça peut être réglé très très rapidement. Et puis je voudrais juste rajouter un petit truc après, je m'arrête là. Et je me suis formée il y a peu de temps à ça, j'ai fait un premier module, c'est une formation en 3 modules, sur la période de la maternité, donc le shiatsu et la maternité, donc pendant la grossesse et le post-natal. Parce que les femmes, pendant la grossesse, ont du mal à s'occuper d'elles vraiment. C'est difficile, il y a beaucoup de symptômes, elles ne peuvent pas prendre de médicaments. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis elles ont besoin, il y a tout qui bouge à l'intérieur, les os, tout. Donc elles ont vraiment besoin de prendre soin d'elles à ce moment-là, c'est très important. Et après, une fois qu'elles ont accouché, c'est encore pire. C'est-à-dire que tout est centré sur le bébé. Et en général, elles ne s'occupent absolument pas d'elles. Et donc, moi, dans cette formation, j'ai vu qu'elles pouvaient prendre un temps pour elles tout en étant avec leur bébé. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire des exercices pour elles pour retrouver la stabilité du bassin, pour se faire des massages au niveau des seins, pour la lactation. Enfin, elles peuvent apprendre à faire ça. Et tout en faisant des exercices avec leur bébé et en faisant ça avec le papa aussi. Et enfin voilà, moi je trouve ça assez formidable. Faire du shiatsu aussi très très léger évidemment sur le bébé selon les stades du nourrisson. Et tout ça, ça crée une harmonie familiale. Si tout le monde prend en compte ces petites choses, ça peut faire vraiment quelque chose de chouette.
Moi, je voudrais revenir sur la question sur les jeunes. L'adolescence, par exemple, c'est une période vraiment de grands changements et avec beaucoup de pression, finalement, sur l'avenir dans une société qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Pas très facile, en fait, au niveau humain. Et que du coup, apprendre aux jeunes à avoir des outils pour trouver un état de tranquillité intérieure ou se restabiliser, pouvoir un petit peu gérer leurs émotions et prendre de la distance, c'est, à mon avis, quelque chose qui est très important, quoi. Oui. Qu'ils puissent vraiment prendre les choses pleinement, mais pas avec toutes ces pressions et toute cette difficulté qui peut y avoir à cette période. Du coup, une approche qui prend en compte vraiment la possibilité d'apprendre à se relâcher, d'apprendre à mieux se connaître, c'est vraiment intéressant pour cet âge-là.
Sarah, sur cette question de la discipline pour...
Moi, je dirais, c'est de retrouver une espèce de bon sens qu'on avait auparavant, qui est lié à l'hygiène de vie. Avec des choses simples, parce que le corps est très bien fait, il est fait pour être en bonne santé, en fait. Donc, comment faire pour conserver cette bonne santé? On peut considérer la question de différentes manières, mais c'est vraiment des choses très simples, aussi d'hygiène de vie. Et donc, comme le disait Nadège, de ramener la personne en disant à une responsabilisation de sa santé. Par exemple, dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a la fameuse histoire où on dit toujours qu'auparavant, les médecins chinois, ils étaient payés quand les personnes n'étaient pas malades. Et que quand la personne était malade, on arrêtait de payer le médecin parce qu'il avait mal fait son boulot. Pauvre médecin, parce que quand même, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est pas toujours évident. Donc, je ne sais pas si c'est une légende ou pas. Mais en tout cas, c'est l'idée, effectivement, de maintenir la santé. Voilà, l'hygiène de vie, c'est ça. C'est de maintenir la santé. Et de la santé, mental, enfin pas mental mais psychologique aussi, c'est, ça passe par le corps et puis d'être satisfait de soi aussi.
Francine, je vais juste quand même revenir à la base. Toi, tu fais dans la naturopathie, c'est ça? Alors la naturopathie, ça consiste en quoi?
Ben, c'est un peu les mêmes approches, hein. C'est l'approche de, c'est une approche globale de la personne. On ne va pas s'occuper d'une maladie, mais d'un fonctionnement. Aller visiter en profondeur le fonctionnement anatomique et aussi le niveau de stress de la personne et d'essayer de l'aider dans ses gestes quotidiens à revenir à un équilibre à travers l'alimentation, à travers la respiration, la relaxation, avec plein d'outils différents. Mais c'est toujours le même but, c'est de rendre la personne autonome, qu'elle prenne conscience de qui elle est, de ses besoins et qu'elle puisse cheminer avec ça.
Donc Emma, toi tu pratiques l'ostéopathie, ça consiste en quoi?
Donc l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle où la porte d'entrée, c'est l'analyse du corps physique. Donc dans mes consultations, il y a toujours un temps de parole au départ où je prends l'histoire, pourquoi la personne est là, mais aussi d'autres choses qui peuvent apparaître pas en lien direct, mais qui pour moi, dans mon analyse ostéopathique, sont très importants. Après, je passe à une phase diagnostique où je fais des tests mécaniques, faciales, énergétiques, pour regarder les différents systèmes du corps, la circulation, le système nerveux, le système viscéral, le système musculo-squelettal, etc. Et avec toutes ces informations-là, on formule un traitement. Et dans l'ostéopathie, il y a plein d'outils différents qui peuvent travailler sur tous ces systèmes différents. Voilà.
À mon idée, l'ostéopathie, donc, ça serait de remettre en place les organes et les éléments du corps.
Mais il y a un principe fondamental pour l'ostéopathie qui est de remettre en mouvement. Donc, ça travaille beaucoup le mouvement la fonction des organes et des articulations. Mais ce n'est pas autant remettre en place dans une vision statique, comme beaucoup de gens ont l'air de penser. Et après, on travaille aussi pour améliorer la circulation. Mais c'est vraiment d'améliorer la fonction et d'utiliser la propre vitalité de la personne et d'essayer de remettre cette capacité de s'auto-guérir en place, parce qu'on l'a tout le temps. Et l'ostéopathe est juste là pour accompagner le corps d'aller vers vers son équilibre de santé.
Merci. Est-ce qu'il y a eu pour vous une nécessité de créer cette maison de la santé naturelle?
Oui, donc il y a plusieurs raisons pour moi de le faire. Il y a un côté de se rassembler pour avoir un cabinet ensemble. C'est agréable et on est plusieurs à travailler à mi-temps, donc ça rend possible d'avoir une maison dans le centre de Die. Ce qui nous emmène vraiment derrière ça, ce qui nous emmène vraiment ensemble, c'est l'envie de découvrir qu'est-ce qu'on a en commun entre thérapeutes, qu'est-ce qu'on fait dans les mêmes directions, c'est quoi nos différences, nos expertises différentes, pour justement définir ça et pouvoir aller vers une meilleure santé pour les gens qui viennent chercher.
Vous vous adressez à quel public ?
Dans l'idéal, tout le monde. Après, on est au tout début de notre projet ensemble et on est en train d'essayer de définir comment est-ce qu'on peut justement offrir ça à tout le monde. Déjà, l'idée d'être présent 6 jours sur 7, c'est quelque chose qui est important pour ça. Et après, il y a eu la question de faire quelque chose selon les lignes du dispensaire. Et notre lieu ne s'apprête pas ici à faire un vrai dispensaire à accueil public. Donc on est plutôt un regroupement de praticiens. Mais dans notre envie, c'est quand même d'essayer de trouver une forme où on pourrait faire des journées, ou des... Là, on vient de parler peut-être d'une semaine par mois où le lieu est ouvert et au lieu de payer les tarifs normaux, il y aura une participation consciente. Mais tout ça, c'est en cours. Il y a déjà des praticiens ici qui pratiquent ça à chaque fois, de la participation consciente. Mais on est en train de discuter comment on peut mettre ça en place globalement.
Francine, quel a été ton engagement et quel désir t'a poussé justement à venir participer à cette maison ?
Je suis pour le rassemblement en général dans ma façon d'aborder les choses, parce que ce sont des forces. Effectivement, comme je disais, aider les gens qui viennent aussi à trouver ce qui lui correspond le mieux parmi toutes nos pratiques. Comme disait Emma, diriger les gens aussi vers ce qui peut leur correspondre le mieux. Et ce qui m'a plu aussi ici, c'est qu'entre nous, s'aider aussi à comprendre mieux dans chaque pratique comment aider les gens, comment aborder les problématiques sous différentes facettes, faire des ponts entre nous. Et puis cette idée de dispensaire à venir, oui, ça me plaît beaucoup de pouvoir aussi offrir les pratiques naturelles de santé à des prix moindres, à des gens qui en ont besoin, qui en ont l'envie et qui n'ont pas les finances pour ça.
Et vous travaillez avec la médecine généraliste aussi pour avoir certaines personnes venir chez vous ?
Dans les rencontres entre praticiennes qu'on va faire, on va aussi inviter les médecins généralistes. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde, c'est pas que nous ici. Donc oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de convention par rapport à la sécurité sociale dans votre maison de la nature. Est-ce qu'il y a une prise en charge pour des personnes qui viendraient vous voir ?
Non, c'est juste il y a des mutuelles qui prennent en charge parfois, mais c'est juste ça.
Quelques mutuelles qui prennent en charge quelques pratiques, oui, ça arrive.
Que vous connaissez ?
Moi, je ne les connais pas toutes. Je vais les lister quand même pour les gens. Mais oui, après, on n'est pas reconnu par l'État français, à part l'ostéopathie. Mais la naturopathie, c'est en chemin, mais ce n'est pas encore fait. Et là-dessus, voilà, on pourrait être considéré comme un peu à l'écart, à part, mais ça n'enlève pas la qualité des soins. Et puis notre envie aussi de rassembler, aussi de faire des complémentarités avec la médecine conventionnelle. Voilà, tout est ouvert, on est plutôt dans une idée de complémentarité.
Qu'est-ce que c'est un dispensaire dans le lieu d'ici ?
Mais dans le lieu d'ici, on n'a pas encore défini quelle forme ça pourrait prendre. Ce ne sera pas un dispensaire comme on peut le trouver à Cré, par exemple. Ouais, on va essayer, peut-être qu'on va le nommer différemment. Mais dans l'idée, c'est de rendre le soin naturel accessible à tout le monde qui en a envie et que la personne vienne avec une participation consciente qui est juste pour lui à ce moment-là. Et ça, entre nous, c'est vraiment quelque chose qui nous donne très envie, tous les praticiens ici. Donc c'est que ça va se faire.
Et c'est une idée qui a germé depuis combien de temps, cette idée de vous regrouper dans cette maison ?
Enfin, il y a longtemps, moi, j'ai fait mon école avant de faire l'école de naturopathie. J'en avais déjà pas mal parlé avec Nadège, notamment, d'être ensemble, quoi, pour faire des choses dans un lieu commun, pour être mieux identifié, mieux vu, en fait. Oui, pour moi, en tout cas, ça fait longtemps.
Et... Oui, en pratique, c'était l'association, on l'a créée fin de l'année dernière. Et parce qu'on était à ce moment-là, par hasard, quelques praticiens qui cherchaient un lieu surdit. Et on se disait, pourquoi pas faire ensemble, ça peut être chouette.
Voilà, parce que vous n'aviez pas de cabinet à proprement parler, chacune de vous.
Si.
Du moins pas toutes, peut-être.
Ouais, voilà, pas toutes.
Il y a des
voilà.
Hommes aussi, hein.
C'est trois hommes.
Voilà, c'est ça. Donc, ouais, qui sont ici,
quatre,
je suppose.
Même.
Et après, ça a été assez vite. On a vu que c'est pas que le fait de partager une maison qu'on a envie ou de partager un cabinet. C'était vraiment on se posait des questions de l'ordre qu'est-ce qui se passe réellement dans la transformation et dans la guérison. Dans les soins ou dans les personnes, ça, c'est pas forcément pendant un soin, mais c'est quoi qui se passe réellement à ce moment-là. Et donc ces questions-là, ça nous tient à cœur, à, je dirais, toutes les praticiens ici, ou au moins la plupart, et de découvrir ça ensemble et d'échanger là-dessus. Ça aide aussi la qualité de la vie générale, de pouvoir définir, de voir comment, comme tu dis, ça donne une force de la guérison.
Une renaissance.
Ça peut être une renaissance, oui.
Ou une naissance.
Ça peut être une naissance, ça peut être la mort aussi de certains.
Je ne vous le souhaite pas quand même ici.
De certaines choses.
Non, mais il faut, pour une renaissance, il faut bien avoir la mort oui. Qui précède.
Il faut voir. Hein, au niveau végétal, on ne peut pas dire qu'un arbre soit mort s'il perd ses feuilles, c'est ça que je veux dire. Voilà.
Mais les feuilles sur le sol, les feuilles mortes sur les sols, on va donner de l'humus qui va faire de la vie au pied de l'arbre. Qui va le renourrir.
Voilà.
Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué dans la soirée d'inauguration, c'est que les gens qui sont venus à cette inauguration ont aimé ce regroupement. Ça les rassure. Ils aiment... je crois que dans le Diwa, il y a beaucoup de regroupements comme ça de gens, parce que c'est une force, comme je disais, mais c'est le public aussi est rassuré par cette force. C'est comme si c'était plus clair pour eux. On nous a beaucoup retourné ça. Et ça nous, du coup, nous conforte aussi dans ce choix.
Catherine, bonjour. Donc vous pratiquez la thérapie brève. Ça consiste en quoi ?
La thérapie brève, c'est un outil qui vient des États-Unis et qui se propose d'aider la personne à retrouver ses compétences qu'elle a perdues à l'occasion d'une situation soit récurrente, soit qui dure un petit peu trop longtemps et où elle a perdu confiance en fait. Donc on l'aide en étant à l'écoute de ce qui lui arrive et à travers ce qu'elle dit, capter qui elle est, comment elle fonctionne, et lui retourner tout son fonctionnement pour qu'elle puisse s'en servir de façon de nouveau constructive.
Et autonome.
Bien sûr, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on attache une importance à la brièveté, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'enjeux tels qu'il peut y avoir dans des thérapies longues, des enjeux vis-à-vis du thérapeute. Et donc, ça nécessite la brièveté pour que la personne reste autonome tout au long du travail.
Ce sont des personnes qui viennent pour des cas particuliers, ou alors c'est de l'ordre du chronique ?
Alors, il y a les deux, précisément. Des personnes qui sont vraiment dans quelque chose qui revient régulièrement et qui les déstabilise régulièrement. Ou bien alors, ils se trouvent dans une situation qui les déstabilise complètement. Elles ont besoin d'un coup de pouce pour sortir de cette déstabilisation.
Et vous donnez comme des clés, en somme ?
En fait, je ne donne rien. J'aide la personne à retrouver ce qu'elle a déjà. C'est tout. Et qu'elle ne soupçonnait pas parce qu'elle n'a jamais eu accès, soit qu'elle avait perdu, parce que la vie, c'est aussi des fois on est un peu décentré. Mais je donne, c'est vraiment une collaboration. C'est pour ça que le mot donner me dérange un peu, mais c'est une collaboration pour que la personne retrouve ses propres ses outils, sa confiance, son ouverture, tout ce qui fait sa richesse, quoi.
Une question qui me traverse l'esprit, est-ce que vous pensez qu'un lieu comme ici pourrait être transposé dans une ville, une grande ville par exemple ?
C'est une question difficile, d'autant plus que je viens d'une grande ville et que je me suis installée à Die, parce que pour moi Die c'est une ville à échelle humaine. Un lieu comme ici, dans une grande ville, ça demande beaucoup d'investissement en communication, en amont, pour faire connaître. Et en même temps, partout où un fonctionnement collectif fonctionne, c'est forcément moteur de changement. Et moteur de changement, on en a besoin en ce moment, de retrouver un petit peu de solidarité, de retrouver de la cohérence dans ce que les gens font. Et ici, les pratiques, elles ont une cohérence. Je ne sais pas ce que mes collègues vous ont dit, mais on a tous cette idée d'individualité, de travailler sur la totalité de la personne à travers un outil qui est différent pour chacune ou chacun de nous. Donc c'est la même chose dans les grandes villes. Pourquoi pas ? Mais ça demande d'autres moyens, effectivement.
Quel était ce désir de participer à cette aventure pour vous ?
Alors le désir pour moi, c'est de travailler en collectif. C'était de me sentir encore plus intégrée dans ce que j'appelle l'effet Diwa, quelque chose qui cherche à créer une société à dimension humaine, avec des initiatives atypiques qui font l'intérêt de Die. Ici, c'en est peut-être une. On a le projet lointain d'ouvrir notre lieu à un fonctionnement de dispensaire. Mais lointain, on n'est pas encore très, très, très au point là-dessus, mais on a envie que ce soit accessible à tout le monde. Et en ça, on se rejoint. On se rejoint dans nos pratiques, on se rejoint dans notre motivation à créer un espace d'échange ici, avec les médecins, avec les infirmières. Tout ça, on a la même motivation.
Et Catherine Boucher, c'est votre nom. Quelle a été votre formation dans ce domaine ?
Alors moi, j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années l'animation de groupes de parole. Ensuite, j'ai été amenée à accompagner les personnes qui voulaient animer des groupes de parole dans leur formation. Voilà. Et puis, tout naturellement, je suis arrivée à la connaissance de la thérapie brève qui était vraiment au balbutiement il y a quelques années en France. Et vraiment, ça a fait écho en moi en me disant « je peux faire quelque chose dans ce que je sens être capable d'être et de donner. C'est un outil qui me convient. » Donc, je me suis formée dans une école qui s'appelle... la thérapie brève intégrative, et qui est animée par un psychanalyste et psychothérapeute à Rouen. Voilà. Merci.
Merci. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes aussi dans cette maison de la santé naturelle, c'est ça ?
Oui.
Et quel a été ce désir pour vous d'y participer ?
Eh ben, moi, c'est l'idée du collectif et de pratique à la fois une approche sur le corps et à la fois une approche plus mentale. J'aime bien faire la connexion entre les deux. Je pense qu'il y a vraiment des choses à inventer en termes de soins et d'aide à la personne, de pont entre toutes ces disciplines, et nous, en tant que praticiens, de pouvoir partager sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et faire avancer toutes ces pratiques, quoi.
Stéphane, pour introduire, quelle était ta formation professionnelle là, dans ce domaine?
Alors, dans ce domaine, moi, je parlerai en termes d'approche. Je ne suis pas diplômé dans le domaine, mais j'ai une approche, une solide initiation, formation en analyse transactionnelle. Voilà, qui pour moi est un outil d'accompagnement, de compréhension des comportements humains, et qui peut permettre d'avoir un regard, de comprendre, d'avoir une lecture de situations dans lesquelles parfois on peut se sentir bloqué, isolé. Et donc en groupe de parole, bah, ça peut être intéressant d'avoir cet outil.
C'est un mot que j'ai souvent entendu lors des entretiens précédents, c'est le mot pont. Qu'est-ce que ça signifie, un pont, et ça vient d'où ce terme?
D'où ça vient, je ne sais pas. En tout cas, moi, si je l'utilise, c'est d'avoir des échanges et des apports mutuels d'une pratique à l'autre. Comment je peux me servir je pense là au massage, je viens d'assister à une séance de massage thaïlandais. Je me dis que là, il peut y avoir des points de massage, ça se fait par pression, point de pression. Il y a un tel point de douleur, peut-être qu'on peut faire le parallèle, le pont avec l'analyse transactionnelle et dire tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu là se nouer émotionnellement dans le corps, la mémoire du corps, on en parle beaucoup.
Est-ce que ça serait presque des soins à la carte?
Oui, c'est ça l'idée, oui. Que la personne ait un panel de pratiques qu'elle peut moduler comme elle le sent, elle, vraiment centrée sur la personne, quoi.
Donc, vous êtes arrivé depuis quand dans le Diwa? Est-ce que vous aviez déjà un lieu où vous pratiquiez?
Non, pas encore. Moi, je suis plus sur le Crétois. Et j'ai entendu parler de la source qui s'ouvrait. J'ai été sollicité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, oui, l'idée du collectif, quoi. Et puis de ce panel de pratiques, cette richesse-là.
Pensez qu'ici, ce lieu pourrait être installé dans une grande ville?
Oui, moi je pense que ça peut se généraliser. Il n'y a pas de raison, quoi. Moi je pense qu'il y a vraiment là un vivier de choses à inventer en termes d'accompagnement et de soins aux personnes. Encore une fois, de faire le pont entre le physique, le mental. Pourquoi pas lier les deux dans des séances de thérapie, envisager commencer par une séance de massage et finir par un entretien orienté analyse transactionnelle? Pourquoi pas?
Parce que tout à l'heure, j'ai entendu le mot dispensaire. C'est un mot qui commence à émerger parmi vous, mais sans avoir vraiment une grande précision, parce que c'est juste dans l'ordre de l'idée pour l'instant. Et la vôtre, ça serait laquelle là-dessus?
Alors, pour ce qui est du groupe de parole, en termes de dispensaire, c'est peut-être plus délicat. Là. L'idée du dispensaire, c'était de rendre accessible au plus grand nombre, en fonction de ses moyens, qu'il y ait une journée ou deux dans la semaine qui soit à la carte, également en termes financiers.
Bonjour Thierry. Tu es praticien de...
De massage et soins énergétiques thaïlandais. Parce qu'en fait, réduire juste au massage, c'est un peu réducteur, puisqu'il y a beaucoup de soins différents, si tu veux, englobés dans le terme massage thaïlandais. Tu as le massage traditionnel, le massage à l'huile, le massage avec les pochons d'herbe, la réflexologie thaï, qui s'occupe donc de la réflexologie plantaire et des jambes. Et puis après, tout un tas de soins spécifiques.
Quelle a été ta formation, justement, dans ce domaine?
Donc, je me suis formé en Thaïlande, à l'école du Wat Po, qui est l'école institutionnelle pour apprendre le massage thaïlandais.
Tu es venu t'installer dans le Diwa ou tu es ici depuis longtemps?
Non, j'étais déjà dans le Diwa, en fait. J'avais déjà commencé le massage depuis un certain temps. Je pratiquais le shiatsu et puis le massage ayurvédique et le massage californien. Comme j'avais des liens depuis longtemps avec la Thaïlande, j'ai eu envie de m'initier au massage thaï. Et donc, quand j'ai commencé ma première formation, ça m'a vraiment correspondu. Et du coup, j'ai approfondi et j'ai enchaîné les formations là-bas, à Bangkok, au Wat Po.
Et alors, quel a été ce désir pour toi de participer à cette maison de la santé ?
C'est arrivé assez rapidement, parce que, en fait, j'ai été contacté donc, en tant que praticien de massage pour participer à cette histoire. Et tout de suite, ça m'a parlé. Le fait de se retrouver... comme ça, regroupé avec toutes ces pratiques différentes, ces disciplines différentes, c'était la possibilité pour nous, en tant que praticiens, et ben d'échanger avec les autres et donc de pouvoir développer nos pratiques et d'apprendre les uns des autres. Et puis surtout, dans l'idée de pouvoir faire une offre comme ça, pluridisciplinaire, concentrée au même endroit, dans un petit territoire, j'ai envie de dire, comme dit, enfin, un territoire peu peuplé, assez reculé, et ben, je trouve que c'était vraiment pouvoir offrir aux populations de ce territoire quelque chose d'original et d'unique.
Quand une personne arrive ici, qui nécessite des soins ou qui voudrait être soignée, comment ça se passe ?
La personne qui arrive ici, elle va être peut-être plus sensibilisée à tel ou tel type de soins. C'est-à-dire qu'elle va venir s'adresser à un thérapeute en particulier. Pour l'instant, en fait, on agit tous avec nos particularités. Donc les gens, en fait, on a chacun ramené nos propres réseaux. Donc les gens viennent voir un thérapeute. Après, quand toi tu reçois la personne, donc qui vient avec une demande, tu vois comment tu peux l'accompagner. Et si tu estimes, en discutant avec la personne, qu'elle a peut-être plus intérêt dans sa demande à s'adresser à un autre thérapeute, et ben, du coup, tu peux l'orienter directement, puisqu'ils sont là. Après, ce dont tu parlais, je pense que c'est dans le projet qu'on a à venir. C'est-à-dire que justement, le but de la maison de santé La Source, c'est justement de permettre ça. Après, de pouvoir recevoir les gens d'une manière plus globale, et de mettre en place avec eux un protocole de soins qui va faire intervenir différentes pratiques. Parce que selon l'attente de la personne, il peut y avoir peut-être au début un besoin en naturopathie qui va, une fois que le travail en naturopathie va commencer, pouvoir être bénéfique d'avoir à côté un accompagnement en soins thaïlandais ou en ostéopathie, les autres disciplines qui sont offertes ici. Et c'est tout l'intérêt de la maison de santé.
Ça nécessite une grande disponibilité de votre part, donc, aussi.
Je pense que ça, dans le futur, ça nécessitera une disponibilité quand il va commencer à y avoir de plus en plus de monde qui vont venir. Et d'ailleurs, notre but, c'est quand même à un moment donné de pouvoir aussi offrir, si tu veux, des soins aux plus démunis. C'est-à-dire, on a quand même comme projet de faire des journées dispensaires, c'est-à-dire donc de permettre là, d'ouvrir le lieu à tout le monde, même les gens qui ont peu de moyens. Et qui puissent avoir accès à ce genre de thérapie qu'on appelle des thérapies douces et naturelles. Le problème, c'est que bien sûr, on n'est pas homologué pour permettre aux gens d'être remboursés par la sécurité sociale. Alors que le but de ces thérapies, c'est finalement d'éviter aux gens, si tu veux, de les accompagner d'une manière préventive pour maintenir leur santé avant d'être réellement malade et donc... peut-être après d'avoir besoin de faire appel à des soins plus traditionnels et souvent plus lourds au niveau des effets secondaires qu'il peut y avoir avec l'allopathie et la prise de médicaments.
Est-ce que vous avez ressenti, entre vous tous, justement une nécessité d'ouvrir cette maison, La Source ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que le projet a pris forme. La nécessité de pouvoir justement offrir une complémentarité entre le monde médical classique, qui a ses qualités, qui a ses protocoles de soins, et être justement complémentaire en nous amenant, si tu veux, d'autres thérapies plus naturelles, plus douces, qui peuvent accompagner, si tu veux. Les deux ne sont pas antagonistes, en fait. Loin de là, au contraire.
Est-ce qu'on peut établir aussi des termes, genre le court ou long, moyen terme ? Comment envisagez-vous ça ? Est-ce que la médecine conventionnelle essaye de travailler dans le court terme grâce à des médicaments ? Est-ce que vous voyez ça plutôt dans un parcours plus long peut-être ?
C'est forcément, je dirais, plus long dans le sens où où nous, on ne fait pas appel à des produits chimiques, à des drogues, même si on peut utiliser la phytothérapie dans ce protocole de thérapie. Mais c'est forcément moins impressionnant qu'un soin allopathique où tu vas prendre une drogue chimique qui va avoir tout de suite un effet spectaculaire sur le mal, enfin sur la maladie qui te touche. Le problème, c'est que ces drogues chimiques ont toutes des effets secondaires. Alors que, si tu veux, dans les soins naturels, il y a peu, voire pas, d'effets secondaires. Et par contre, ça peut accompagner et adoucir pour des gens qui ont des protocoles lourds au niveau médicamenteux, adoucir justement les effets secondaires de ces médicaments. Sans pour autant, je te dis, nous, on n'est pas, c'est pas médical, hein, c'est des soins naturels. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Mais il y a beaucoup de gens qui trouvent, si tu veux, dans ces protocoles de massage ou dans l'ostéopathie, un moyen justement de soulager, de trouver quelque chose de relaxant qui leur permette d'assimiler les protocoles médicamenteux lourds qu'ils ont à subir parce qu'ils ont des pathologies un peu graves. Et du coup, voilà, là, on a une réelle complémentarité entre les deux branches disciplinaires, une qui est la médecine, et nous qui sommes le soin naturel.
Donc c'est une thérapie naturelle qui agit directement par le biais du corps.
Oui, surtout qui fait appel, dans le mot naturel, c'est-à-dire qui fait appel aux choses qu'on a en nous, qui sont dans la nature. C'est-à-dire ce qu'on a en nous, déjà, c'est notre propre capacité d'auto-guérison. Ça, on l'a tous en nous. Le corps est fait pour bien fonctionner. Et tout dans la nature nous donne les moyens de rester en bonne santé. Après, ce qui va faire que notre santé va se détériorer ou qu'on va avoir des problèmes, c'est soit nos mauvaises habitudes, soit l'environnement, qu'aujourd'hui on a de plus en plus de mal à maîtriser, que ce soit pollution atmosphérique, pollution au niveau de l'alimentation, après, plus au niveau musculaire, squelettique, on sait tous ce que c'est que de travailler manuellement, d'avoir le tour de rein, de porter des choses lourdes, de mal le faire ou de trop le faire. Parce que quand tu es dans un travail répétitif, manuel, dur, forcément, ton corps, il encaisse. Pendant que tu es jeune, ça va, mais très vite, tu vas sentir les conséquences négatives de tout ça. Donc, les thérapies naturelles, le but, c'est d'accompagner la personne pour retrouver un équilibre entre son corps et la nature qui l'entoure et dont elle est issue. On est issu de cette nature. Donc forcément, c'est dans cette nature que les solutions, elles se trouvent.
Vous avez sur les plaquettes, vous avez le numéro de téléphone.
Déambulation.